On va partir au Proche-Orient à présent, que nous réservent les prochaines heures. Beaucoup d'incertitudes ce soir. Israël va riposter à l'attaque iranienne. C'est une certitude. Le chef d'état-major de l'armée israélienne l'a confirmé. Écoutez.
Nous regardons vers l'avenir et nous envisageons nos prochaines actions. Et ce lancement de tant de missiles de croisière et de drones dans le territoire d'Israël sera accueilli par une riposte.
Bonsoir Vincent Desportes, vous nous avez rejoint, vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, ancien directeur de l'école de guerre. Déjà sur le calendrier, j'aimerais vous interroger sur le calendrier parce que ce soir le Wall Street Journal cite des responsables américains et occidentaux qui prévoient une réaction rapide, peut-être dans les prochaines heures. Que pensez-vous de ces informations? Est-ce qu'une attaque imminente vous semble le scénario le plus probable?
Alors c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que cette riposte est prévue par M. Netanyahou au moins depuis le 1er avril dernier. Donc la riposte en elle-même est prête. En revanche, aujourd'hui, et donc après, c'est une affaire de décision et de justesse politique dans le temps de la frappe. Ce qui est important, plus que le temps, à mon avis, c'est la forme de la frappe. C'est-à-dire, est-ce que ce sera une frappe de riposte de type escalatoire ou est-ce que ce sera une frappe de riposte pour l'honneur de type désescalatoire? Ça, c'est le véritable problème. Et je pense que Netanyahou a un véritable problème. Aujourd'hui, il a gagné tout ce qu'il a voulu dans cette affaire-là, et en particulier un soutien extrêmement fort de sa population qu'il avait perdu. Maintenant, il a aussi gagné un soutien international et il risque fort de perdre ce soutien international si sa riposte n'est pas considérée comme raisonnable par ses pays partenaires, dont évidemment les États-Unis, mais la France, l'Angleterre, etc.
Il a, il a réuni une nouvelle fois son cabinet de guerre cet après-midi. Les débats ont été vifs, de ce que l'on sait, hier, parce qu'une partie du gouvernement veut une réponse musclée. Et on voit bien que Netanyahou est pris d'une certaine façon entre deux feux, parce qu'il y a la pression de la communauté internationale qui appelle au calme et qui demande à ne pas réagir, et notamment son allié. Et puis l'aile ultra-droitière de son gouvernement qui appelle à la vengeance. Qui a le plus de poids?
C'est assez compliqué parce que jusqu'au 13 avril à 20h, Netanyahou était lâché par tout le monde, par sa population, son opinion publique et la communauté internationale. À 24h, il avait regagné tout ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que lui, savait sa volonté, c'est de terminer la guerre à Gaza? Et pour terminer la guerre à Gaza, il a besoin de la communauté internationale, du soutien. Mmh. On sait bien que les Américains se sont retirés. Enfin, on dit qu'ils n'iraient pas plus loin que ce qu'ils avaient fait. Et donc, doit-il céder aux extrémistes? Auquel cas, il va perdre, à nouveau, par une riposte escalatoire, il va perdre le soutien international. Et donc, au fond, il ne sera pas en possibilité de terminer sa guerre à Gaza. Donc, je pense que c'est ça, sa vraie difficulté aujourd'hui.
Le fait est qu'il est très contesté au niveau national. Il y a de plus en plus de manifestations anti-gouvernement. Est-ce qu'il joue aussi sa survie politique là, sur la décision qui va être prise?
Oui, il la joue, mais c'est bien le problème. C'est qu'il n'y en a plus maintenant. Les gens qui manifestaient au moment des frappes contre lui ne manifestent plus. Ils veulent qu'il y ait une frappe. Et donc là, il a quelque chose qui est incroyable. En 4 heures, il a réuni, et une nuit, il a réuni derrière lui le monde libre.
Mais pourtant, on voit bien qu'il y a une dissension au sein du gouvernement sur la réponse à apporter.
Oui, sur le niveau, sur les niveaux.
C'est
le niveau de la riposte.
Mais en fait, c'est ça qu'on va regarder, c'est le niveau de la riposte. Parce que de toute façon, on le sait qu'il va
être frappé. Va-t-il frapper l'Iran ou va-t-il désescalader?
Alors, on va voir les scénarios possibles et les scénarios les plus probables. Mais que souhaite la population israélienne? Est-ce que la population israélienne attend une réponse forte, ferme, au risque de déclencher un embrasement et une guerre totale dans la région? Ou c'est un message envoyé à la population, une réponse visible
pour sortir
les muscles d'une certaine façon?
Il faut voir, dans ce contexte, il ne faut pas montrer de faiblesse. Israël est en danger depuis le premier jour, est en survie le premier jour de sa création en 1948. Et donc, après cette attaque, j'insiste, vraiment, c'est historique quand même ce qui s'est passé. Jamais l'Iran, qui avait souvent menacé, n'avait attaqué directement Israël de cette manière. L'avait fait à travers le Hezbollah, à travers le Hamas aussi, puisqu'il le finance, mais jamais directement de cette manière. Et donc, la population israélienne, dans un souci naturel de survie, veut une réponse qui se voit pour dire « nous sommes forts ». C'est un message envoyé par le gouvernement, mais envoyé par la propre population, qui doit être rassurée, mais la propre population veut que le monde, et notamment l'Iran, voit qu'ils sont capables de se défendre. Donc, le simple fait de se dire « nous avons réussi ».
C'est une réponse dissuasive aussi.
Bien sûr.
Parce que d'une certaine façon, l'Iran a fait tomber une ligne rouge en attaquant directement.
Mais bien sûr.
Bien sûr.
Israël a vécu deux moments dingue ouais. entre le 7 octobre qui est une première fois et cette attaque de l'Iran direct qui est aussi une première fois.
On comprend bien qu'il y a
La difficulté, on le sait bien, depuis le 7 octobre dernier, il y a deux choses qui se jouent, il y a la sécurité d'Israël et il y a le poste de Premier ministre de monsieur Netanyahou et il y a un biais considérable dans les décisions qu'il prend parce que ce qu'il veut
c'est que les deux intérêts se rejoignent, la sécurité d'Israël et
qui plane sur sa tête.
Est-ce que la sécurité d'Israël rejoint l'intérêt politique de Netanyahou?
Mais pas toujours. On connaît des écrits de généraux israéliens qui disent que M. Netanyahou est un antisioniste. Parce que ce qu'il a
fait. Parce qu'il met en danger Israël.
Il met en danger la vie d'Israël elle-même, si vous voulez. Donc, mais qu'est-ce qu'il va faire peser, lui? Est-ce qu'il va dire, OK, ce qui compte, c'est d'abord ma survie, et c'est quand même ce qui l'anime depuis le début, ou bien je vais faire quelque chose entre les deux, et au fond, ce qui est intéressant.
Alors, c'est quoi le quelque chose entre les deux? Parce qu'on a évoqué le scénario, la réponse ferme, ce serait une réponse directe, frontale, vis-à-vis de l'Iran, et frapper l'Iran. On sait que ça fait des années que Israël aimerait frapper le programme nucléaire iranien.
Voilà. Et le reste du monde. Hein.
Est-ce que ça pourrait être un prétexte, cette attaque, pour le faire, mais avec les conséquences que ça peut engendrer au niveau régional?
La vraie question, c'est pourquoi est-ce que Netanyahou, alors qu'il n'avait pas besoin de le faire, a frappé l'ambassade d'Iran à Damas? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait?
Le consulat.
Mais est-ce qu'il l'a fait pour regagner uniquement la liberté d'action, et ça, il l'a fait, ou est-ce qu'il l'a fait pour que de réaction en réaction, il puisse assouvir son rêve, dont on sait qu'il est tout à fait important pour lui, qui est d'aller détruire l'arsenal atomique iranien? Ça, on le sait pas.
Est-ce qu'Israël a intérêt à ouvrir un front avec l'Iran et a les moyens de le faire tout en menant la guerre à Gaza?
Sans les Américains, non.
Mais tout le monde pense qu'il n'a pas intérêt. Mais est-ce que vous trouvez que toutes les réactions d'Israël sont parfaitement rationnelles? Dans la tête des Israéliens, sûrement, dans notre tête à nous, on se dit, ça n'est pas raisonnable. Mais c'est la rationalité de quelqu'un, comme vous l'avez dit, qui a été agressé, dont la survie est en jeu. Donc, il ne raisonne pas comme nous. Donc, ce que ça va être, je crois que personne ne le sait.
Vous savez ce que disait Henry Kissinger, qui disait Israël n'a pas de politique extérieure, n'a que de la politique intérieure qui est de sa survie. Donc,
ce qui est vrai de tous les pays, bien sûr, et je ne sais pas qui, je sais, mais j'ai oublié, rappeler que, en fait, les pays devant leurs intérêts, satisfont d'abord leurs passions avant leur intérêt. Je crois que c'est comme ça.
Et d'ailleurs, le journal Haaretz titrait aujourd'hui « Résister à l'extase de la guerre ». Parce que parfois, quand Fred parle, on a vraiment l'impression...
Haaretz, c'est l'extrême-gauche, et c'est le journal... J'ai collaboré à Haaretz, je sais ce que c'est. C'est le journal extrême-gauche en Israël. Il faut dire d'où ça vient. Non mais Pablo, tu as raison de le dire. Mais il faut te dire d'où ça vient. Haaretz, c'est le grand journal de l'extrême-gauche.
Un journal de gauche.
Ulysse, il y a un autre scénario.
L'extrême gauche, c'est ridicule.
Et Haaretz, non mais je veux dire, mais ça ne dénigre pas, mais il faut dire d'où vient, très bien, d'où ça vient.
Ulysse,
il y a
un autre scénario qui se dessine, c'est de frapper indirectement l'Iran, et donc de frapper ce qu'on a appelle les proxys, qui sont en fait les relais, les soutiens non étatiques de l'Iran. Qui sont-ils?
Alors il y a deux alliés, deux proxys, comme disent les militaires d'Israël, de l'Iran, pardon. Au Liban, le Hezbollah, c'est le parti de Dieu qui a été créé en 1982 à la suite de l'invasion d'Israël, il faut le rappeler. Et c'est un parti qui, au départ, donc, était constitué de quelques centaines de militants et qui, depuis le temps, s'est développé en une véritable armée. Alors, le Hezbollah, c'est un parti chiite, soutenu, armé, financé par l'Iran, qui dispose aujourd'hui de 200 000 militants, d'une force d'élite d'environ 20 000 soldats combattants qui se sont entraînés en Iran, qui ont combattu en Syrie aux côtés du régime de Damas et qui disposent d'un armement extrêmement important avec à peu près 150 000 roquettes, des missiles et des drones iraniens.
Donc, c'est l'arme la plus puissante de l'Iran, le Hezbollah ?
Oui, c'est très certainement l'allié militaire le plus important et le plus dangereux pour Israël. Et c'est une armée, ce n'est plus simplement un mouvement politique. Ils ont même des députés, il faut le dire, au Parlement libanais. C'est quasiment un mouvement qui fait la loi, entre guillemets, au Liban. Et donc, c'est un parti pro-iranien extrêmement dangereux et qui a la capacité, effectivement, de lancer des drones ou des missiles contre Israël et faire beaucoup de dégâts. C'est la raison pour laquelle, depuis des mois, pour ne pas dire des années, Israël ne cesse de frapper le Hezbollah. Et d'ailleurs, encore récemment, des commandants du Hezbollah ont été ciblés par des frappes israéliennes. L'autre partie de Dieu, hein, cette fois, ce sont les Houthis. Les Houthis, c'est une minorité au Yémen, qui est un pays en guerre civile depuis des années. Les Houthis, c'est en fait, c'est une secte assimilée au chiisme, qui n'est pas directement chiite, mais qui est soutenue, là aussi, par l'Iran. Qui arme les Houthis? Alors, c'est à peu près 200 000 combattants. Il faut rappeler que ce sont des montagnards, des guerriers des montagnes, qui sont des rebelles et qui ont réussi, finalement, à prendre la capitale du pays, Sanaa, et qui se battent pour avoir le contrôle total du pays, essentiellement face à l'Arabie Saoudite. Mais depuis le Gaza, depuis l'attaque du 7 octobre, eh bien, ils ont décidé de frapper les navires occidentaux qui passent par le golfe de d'Oman, par le détroit d'Ormuz, avec une certaine efficacité, puisqu'ils ont réussi à endommager un certain nombre de cargos. Donc, ils sont devenus des alliés, évidemment, de l'Iran. Et à chaque fois que l'Iran, qui les arme et les finance, leur demande d'intervenir, ils le font officiellement en soutien à la cause palestinienne et à Gaza, au Hamas de Gaza. En réalité, c'est effectivement l'un des deux alliés essentiels. Et donc, on ne peut pas exclure que s'il y a une riposte israélienne, elle pourrait toucher, bon, évidemment, des cibles en Iran, mais surtout le Hezbollah, qui est le plus menaçant, et les Houthis du Yémen.
Est-ce que ce serait acceptable pour les États-Unis que Israël frappe les relais iraniens?
Moi, je crois que ce serait acceptable. Moi, je crois que les États-Unis comprennent qu'effectivement, Israël, après ce qui a été fait, va faire quelque chose. Mais il faut que ça reste non escalatoire. Et si on va frapper un peu les Houthis et un peu le Hezbollah, à mon avis, encore une fois, on sauve l'honneur de la même manière que l'Iran a sauvé l'honneur en tirant une salve terrible de missiles, mais qui n'a pas abouti.
Charles, qui a réagi?
Non, moi, c'est Pablo.
Je voulais
ajouter quelque chose à ce que racontait Ulysse, c'est pour bien être clair. Le Hezbollah, ce sont les seuls à peu près aujourd'hui à être capables de percer le dôme de fer avec leurs 150 000 missiles. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs plus ou moins en 2006.
Hein. 150 000 roquettes et missiles et drones. Hein,
exactement. Donc ils peuvent en envoyer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent en envoyer plusieurs centaines par jour, comme ça a été le cas en 2006. Et quand vous en envoyez plusieurs centaines par jour, au bout d'un moment, ça commence à percer le dôme de fer. Encore une fois, en 2006, ça a réussi à tomber dans
Israël. Donc, ce que vous dites, c'est que c'est prendre un risque considérable que de frapper le Hezbollah ?
Il pourrait y avoir une réponse très très forte de la part du Hezbollah. Mais je voulais dire une deuxième chose qui était importante, c'est que j'ai écouté un discours, enfin j'ai lu une retranscription d'un discours de Khamenei, donc le guide suprême, qui disait il y a quelques jours vouloir prendre la tête de l'axe de la résistance contre Israël et les États-Unis. C'était assez clair et il citait dans son texte, dans son allocution, il citait les peuples arabes. Il disait moi, alors que c'est pas des Arabes, hein, les Iraniens. Mais il disait, voilà, moi, je vais prendre la tête de cet axe de résistance. Et dans le cas d'une escalade, aujourd'hui, ce qui est en train de montrer l'Iran, c'est qu'ils sont capables de mener, d'avoir la dragée haute, en fait, vis-à-vis d'Israël et des États-Unis. Et s'il y avait une escalade, alors Khamenei et tout l'état-major iranien pourraient sortir et dire voilà maintenant nous on prend la tête en fait de ce grand
oui, mais enfin, pardonne-moi mais les Arabes là, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la réponse, ils sont aux côtés d'Israël.
Il faut faire très attention.
Exactement, historique.
Il faut faire attention.
Donc, en fait,
il y a une différence. Non, mais il y a une différence entre les États et les populations qui sont toujours raccord sur le soutien à la Palestine. Exactement, comme l'Arabie Saoudite, comme le Maroc.
L'Arabie Saoudite, la population n'est pas pro-Palestine, par exemple, l'Arabie Saoudite.
Plus compliqué que ça, dans la souffrance du peuple palestinien. Ouais, c'est comme au Maroc.
Merci. Fred, Pablo, je vais vous interrompre parce que ça va être votre moment dans un instant, parce que la bande va prendre le pouvoir. Je vous remercie, Ulysse Gosset et Vincent Desportes. Merci beaucoup pour votre analyse ce soir. Et donc, 23h31.